Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy.
Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le 13e épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde au travers des livres?
Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, nous allons parler bande dessinée. Il y a des histoires qui se racontent parfois mieux avec les images. Un coup de crayon, de la couleur et des mots qui font mouche, et hop, on se retrouve devant une œuvre d'art à part entière. Il y a les grands classiques, par exemple les œuvres de Marjane Satrapi, d'Art Spiegelman, de Manu Larsenet, Tove Jansson ou Bernadette Després, vous savez, celles avec qui on a toutes et tous grandi, puisqu'il s'agit des autrices des Mounines et de Tom Tom et Nana. Et puis il y a les succès plus récents, qui nous font dire qu'il était bien dommage que ce genre soit dédaigné pendant si longtemps. Et les femmes, si peu vues sur le terrain de l'illustration et de la BD, sont maintenant incontournables. En 2016, Joanne Sfar et Riad Satouf et les membres de BD Égalité, le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, s'insurgent. Le Festival d'Angoulême n'a intégré aucune femme dans la sélection des nommées au Grand Prix. Révoltés, Satouf et Sfar demandent à être retirés de cette liste, ils seront bientôt suivis par d'autres. Cette sélection 100% masculine est une idiotie, bien sûr. Les femmes en BD sont aussi universelles que les hommes. Aussi érotique, aussi violente ou aussi touchante. Cela paraît bête d'ailleurs de le dire ainsi, mais elles ont tellement bataillé pour se frayer un chemin dans cet univers masculin qu'il nous paraît important de le souligner. À force de le répéter, ça finira bien par rentrer dans les esprits. En janvier 2020, l'Académie des Beaux-Arts accueille pour la première fois la bande dessinée et c'est Catherine Meurice qui la représente dans la section peinture. En février 2020, Claire Bretéché nous quittait et c'est comme si le monde redécouvrait son talent. Véritable référence pour les autrices d'aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes illustratrices et autrices de bande dessinée. Et nous, on est bien d'accord. Nous avons déjà parlé ici de Pénélope Bagieux, de Catel, de Liv Strömquist. Pour cet épisode, nous avons fait une sélection parmi les sorties récentes et des ouvrages qui font désormais leur entrée dans la catégorie des grands classiques, au regard des initiés. Aucune de ces œuvres n'échappe au constat suivant. La BD aussi raconte de grandes et de très grandes histoires.
Et donc, qu'avons-nous au programme de cet épisode spécial BD?
Alors, nous avons Anaïs Nin sur La mer des mensonges, de Léonie Bischoff.
Nous avons Fun Home d'Alison Bechdel.
Radium Girls de Si.
C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal.
Et enfin, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris.
Sans vraiment la connaître, je l'ai toujours trouvée fascinante, moi, Anaïs Nin. Son nom déjà, peut-on parler de la beauté de son nom, Anaïs Nin? Vous en connaissez beaucoup, vous, des noms aussi mélodieux que celui-là. Je pense que de prime abord, ce nom a peut-être joué sur ma fascination. Et puis il y a tout ce mythe, la femme sensuelle, libre, qui ne se laisse rien dicter, celle qui assume et qui vit pleinement ses fantasmes. Je crois ne pas être la seule à être particulièrement intriguée par elle. Tout de suite, je pense à l'illustratrice Digli, qui sur son compte Instagram parle souvent de l'œuvre d'Anaïs Nin, de son journal et même de ses romans. Si mes souvenirs de scrolling sont bons, je crois même qu'elle collectionne tous les livres qu'elle trouve à droite à gauche sur elle.
Ouais, c'est vrai.
Moi-même, dès que je tombe sur un tome de ses journaux en brocante, je ne peux pas m'empêcher de repartir avec. Et en fait, ils me sont très précieux et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi.
Et l'autrice et dessinatrice suisse Léonie Bischoff est elle aussi de celles qui sont tombées sous le charme d'Anaïs Nin. Après la publication de deux albums où il était de différentes manières question de femmes fortes, Princesse Suplex et Oudou Darling, puis après l'adaptation de trois romans de l'écrivaine de polar suédoise Camilla Läckberg, elle a publié en septembre dernier un projet d'envergure, donc un roman graphique intitulé Anaïs Nin sur la mer des mensonges, publié chez Casterman. La presse et le public sont unanimes, c'est une réussite. Et nous autres, chez La Vagabonde, on est bien d'accord avec cet engouement.
Alors l'ambition, y est de retranscrire les multiples personnalités d'Anaïs Nin. Alors il y a d'abord l'Anaïs qu'on rencontre de prime abord, épouse modèle, belle comme un cœur, très douce, avec des élans artistiques sans prétention, assez peu sûre de ses talents. Puis il y a celle du journal, le journal qu'elle tient avec rigueur et passion, l'Anaïs entière, celle qui assume ses désirs et ses fantasmes. Au début des années 30, quand débute le récit de Léonie Bischoff, l'Anaïs du journal n'existe que dans son imagination, mais elle attend bien sagement d'être révélée au monde. Constamment, elle fait face aux hésitations que l'autre Anaïs, celle épouse d'un homme charmant et honnête, ressent sans cesse. Mais elle sait déjà, au fond d'elle, que son corps attend autre chose, qu'il réclame autre chose, que la sexualité que lui offre son mari, car c'est bien ce dont il s'agit, de sexualité, est une sexualité très normée, bien comme il faut, disons, ne lui suffira pas. Un feu brûle littéralement en elle, qui n'attend qu'une chose, être libérée, libérant avec elle sa créativité. Alors, ce moment de bascule se concrétise suite à sa rencontre avec Henry Miller, qui est un auteur américain qui réside comme elle à Paris. Leur relation débute par être purement intellectuelle. Ils échangent littérature et poésie. Ils ont en commun l'amour des mots et de l'écriture. Et se découvrent très vite une autre passion commune, celle des corps qui exultent. Cette relation charnelle devient une addiction qui révèle littéralement Anaïs à elle-même. Elle devient enfin celle qu'elle a toujours su être, une femme extrêmement connectée à son corps. Alors cette relation lui permet de s'ouvrir et de s'assumer pleinement à ses désirs, jusqu'au plus interdit. Nine entretiendra en effet une relation sexuelle avec son propre père, un homme qu'elle a peu connu et qui a sur elle un effet très fort. C'est déroutant, un peu dérangeant, très dérangeant
ouais,
même,
très, ouais.
très dérangeant, mais c'est authentique. Et c'est comme ça que Nine a toujours voulu vivre.
Oui, et ça me fait penser d'ailleurs, dernièrement, il y a une polémique, enfin assez discrète, mais sur la manière dont cet épisode est évoqué lorsqu'on parle d'Anaïs Nine, justement. Il semblerait en effet que la plupart du temps, on parle de cette relation avec son père comme d'une relation sentimentale presque banale. D'Anaïs comme d'une séductrice et lui comme une de ses proies, comme tous les autres hommes qui ont pu être dans sa vie. Voilà, une vraie banalisation du truc, en fait, alors que certaines personnes, dont l'illustratrice Digli, à qui tu faisais référence, militent vraiment pour une réécriture de cet épisode comme d'un réel fait de violence et d'inceste. On comprend en fait qu'Anaïs Nine a subi l'emprise et les abus de son père depuis son plus jeune âge et que même si elle était adulte au moment des faits dépeints par Léonie Bischoff, cela n'en reste pas moins en fait de la violence. Et du coup, il faudrait lire son journal, je pense, dont un des tomes s'intitule précisément « L'inceste », pour comprendre réellement cette emprise, cette fascination presque pour cette figure paternelle, je dirais monstrueuse. Encore que, du coup, il semblerait que le journal sème le doute sur la véracité des faits, justement, d'où le sous-titre « Sur la mer des mensonges » de Léonie Bischoff. Et voilà, moi, personnellement, je m'attelais à lire ces journaux, mais c'était une petite précision sur la polémique relation avec son père.
Mais c'est hyper intéressant.
Hein. Ouais.
Mais toute cette histoire, pour le coup, elle est portée par des dessins magnifiques, réalisés à l'aide d'un crayon magique. Vous savez, comme l'appelle l'autrice, c'est ces crayons à la mine multicolore qui offrent un océan de possibilités en matière de nuances. Et l'effet est très, très réussi. Je pense que si j'avais été ado... j'aurais découpé des pages pour les coller au mur de ma chambre, tellement tout est beau. Mais je n'ai plus 16 ans maintenant, et je me contente de poster ce qui me plaît sur Instagram. Voilà. Donc c'est très doux, en fait, tout en étant très affirmé et très différent de ce qu'on peut voir d'ordinaire.
Ouais, c'est vrai.
Léonie Bischoff joue avec l'ombre et la lumière, n'hésite pas à mélanger les deux pour nous plonger dans les tumultes de la vie sentimentale et artistique, les deux étant... très étroitement lié d'Anaïs Nin.
Oui, et c'est vrai qu'elle arrive vachement bien à retranscrire les effets, je trouve, un peu brouillés et flous de la frontière entre réalité, fantasme, écriture, vérité. Ces volutes, ces planches où Anaïs Nin est seule, sous l'eau, sur la mer, c'est à la fois magnifique et très précis, je trouve, en termes d'évocation, parce que, oui, pour moi, arriver à retranscrire toute l'ambivalence d'un personnage si créatif et parfois si torturé, c'est vraiment un tour de force pour moi.
Puis vraiment le côté journal-réalité.
Ah oui, absolument.
C'est très bien fait.
Et c'est fait de manière très poétique, du coup, aussi.
Absolument.
Fun Home est paru en 2006 aux éditions de Noël Graphique par l'autrice Alison Bechdel. Mettre les mots sur ce roman est complexe et je dois avouer avoir pas mal tourné autour de la question. Par où commencer, comment le résumer? Alors déjà, Alison Bechdel est née en 1960 en Pennsylvanie. C'est précisément là où se situe l'action de Fun Home. Puisqu'en fait, c'est un récit autobiographique qui revient sur une partie de la vie d'Alison Bechdel, la découverte de son homosexualité et sa relation houleuse, complexe avec son père, homosexuel lui aussi, maniaco-dépressif et, on pourrait dire, abusif. Tout un tableau. Fun Home...
On peut préciser homosexuel non assumé.
Oui, absolument. Fun Home, c'est en fait le diminutif de Funeral Home, un funérarium, une affaire de famille dont a hérité son père et qu'il tenait à mi-temps en parallèle de son boulot de prof d'anglais dans un lycée. Et on se dit que cela a dû être un roman assez difficile à écrire et assez difficile à dessiner.
Oui, en effet, c'est une entreprise extrêmement ambitieuse, c'est clair. C'est une plongée littérale dans le monde de l'autrice, dans son intimité. Elle livre vraiment quelque chose d'elle dans cet ouvrage. C'est ce que j'ai ressenti, ça le rend d'autant plus fort, je trouve.
Oui, absolument. Elle restitue l'histoire de sa famille, qu'elle tricote, du coup, je dirais, autour de la figure de ce père, Son père, au fil des lignes, on comprend qu'il est presque maltraitant, finalement. Très maniaque, très peu affectueux. Il s'intéresse plus à la littérature, à la décoration, la rénovation de sa maison, son jardinage, qu'au bien-être, disons, de ceux qui l'entourent, sa femme, ses enfants. Chaque action, chaque projet qu'il entreprend requiert toute une attention presque pathologique, obsessionnelle. Et donc, la famille se construit autour de cette figure mi-absente, mi-menaçante. Et en fait, de famille, il s'agit plutôt de plusieurs personnes qui partagent en fait la même maison, comme le décrit l'autrice elle-même. Le père d'Alison se suicide. C'est pas prouvé exactement, mais c'est ce qu'elle pense. Lorsqu'elle est assez jeune, elle a une vingtaine d'années. Et en fait, elle analyse ce suicide comme étant la conséquence de l'homosexualité refoulée, tu le disais, Marine, de son père, qui n'a du coup pas pu vivre son identité sexuelle aussi librement qu'il l'aurait voulu, puisqu'effectivement, il s'est marié, qu'il était père de famille. À noter aussi, et c'est ce qui rend encore plus compliqué la relation qu'elle a vis-à-vis de son père, c'est que malheureusement, il avait aussi une prédilection pour les jeunes hommes mineurs, donc il lui est arrivé de se faire, par exemple, embarquer par la police parce qu'il avait offert une bière, entre guillemets, à un homme de moins de 21 ans. Voilà, pour le portrait très reluisant de cet homme-là. Et du coup, ça provoque évidemment une ambivalence dans les sentiments que Alison porte vis-à-vis de ce père très inhabituel, et c'est totalement compréhensible. Et en fait, elle le restitue du coup avec brio en convoquant, car visiblement, cette autrice est un génie sur pattes, hein, quand même, il faut le dire, de nombreuses références de classiques de la littérature anglaise, anglophone en fait. Son père va être tour à tour comparé à Fitzgerald, à Oscar Wilde. Leur relation elle-même va être comparée à Ulysse de James Joyce. Et elle se sert en fait de tout ça dans sa quête à elle, c'est-à-dire l'affirmation de son orientation sexuelle, de son genre, de sa façon à elle de gérer les émotions et les sentiments dans sa propre vie. Et c'est une odyssée en soi, en quelque sorte. Et c'est là que le parallèle justement avec Ulysse est très fort. Autant pour elle que pour son père, comme on le découvre rétrospectivement grâce à son analyse. Voilà, le résultat est très intelligent, assez complexe, dense et très exigeant, puisqu'il pousse le lecteur vraiment à l'analyse, à voir plus loin, à presque se projeter dans une analyse philosophico-littéraire, je dirais.
Ouais, mais moi, je suis assez d'accord, c'est un livre d'une grande érudition, extrêmement documenté, comme tu disais, bourré de références littéraires, philosophiques, recopiant parfois des passages entiers de certaines œuvres, pour les faire entrer en résonance avec son propre vécu. C'est vraiment très habile et vraiment très intelligent.
Oui, et en fait, on pourrait refermer ce livre. Ça a failli être mon cas en se disant, mais j'ai pas lu Ulysse de James Joyce. Et du
qui
coup,
a
j'ai
lu Ulysse de
pas
James
tout compris.
Joyce.
Je n'ai pas fait lettre anglaise. Voilà. Mais on peut aussi choisir d'aller chercher un peu ses références, de se renseigner, chercher à comprendre ce qu'elle a voulu dire par là, ou du moins tout simplement se laisser porter, ça marche aussi. Et elle compte sur notre intelligence, sur notre curiosité, et je trouve ça très cool de faire confiance au lecteur comme ça. Et c'est d'autant plus cool qu'elle se confie entièrement à lui, vraiment totalement, c'est ce que tu disais. Mmh. Donc très cérébrale, c'est à nous de faire le chemin, puisqu'on n'est pas vraiment dans l'instinct, dans l'émotion, on est vraiment dans l'analyse, avec mise en lumière, via des connaissances très très poussées. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'elle fait ressortir avec beaucoup de nuances, et grâce à ça d'ailleurs, grâce à toutes ces références d'ailleurs, la complexité des liens familiaux, la complexité de ces moments charnières, comme la sortie de l'adolescence, où l'on se construit en tant qu'individu. Et c'est loin d'être manichéen, elle arrive à trouver du bon dans du mauvais, à trouver de l'amour dans des relations qui, a priori, semblent l'en exclure. Donc, en fait, elle nous offre une fenêtre sur une famille américaine, disons, lambda au premier abord, avec ses non-dits et ses drames.
D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, moi, je trouve, dans le genre famille lambda, qui garde ses secrets un peu comme ça. Elle a d'ailleurs longtemps comparé sa famille à la famille Adams.
Ouais, c'est vrai.
Jusqu'à analyser les ressemblances physiques entre les personnages de l'histoire, comme Morticia, et les propres membres de sa famille.
Ouais,
je trouve ça plutôt parlant.
Et au-delà de ça, d'ailleurs, ce rapport à la famille américaine lambda, ça nous amène aussi vers une interrogation qui grandit, je dirais, au fil du 20e, 21e siècle, celle du genre, de l'identité, de la direction que l'on donne à sa vie, entre identité intime, là, possiblement, identité orientation homosexuelle ou bisexuelle, et injonction de la société qui est, du coup, patriarcale, hétéronormée. Alors, les planches sont pas forcément à couper le souffle, comme dans d'autres ouvrages dont on a parlé jusqu'à présent. Le trait est très propre, très simple, sans fleuritures. Et en fait, ça correspond totalement au ton du bouquin, c'est-à-dire que ça correspond à cette rigueur dont elle fait preuve, au recul qu'elle a. On sent qu'il n'y a qu'un trait net et très figuratif qui peut servir ce texte, en fait. Et voilà, c'est son style. On le retrouve aussi dans ses autres œuvres. Elle a par exemple fait une suite à Fun Home qui s'appelle C'est toi ma maman. Cette fois-ci, c'est construit autour de sa propre mère. Ou alors L'essentiel des Gwyn à suivre, qui sont donc des strips qui traitent principalement de l'homosexualité. En VO, le titre est Dykes to Watch Out For, ce que je trouve un peu plus rigolo et percutant. Donc prochaine étape, pourquoi pas le lire en anglais. Voilà, et petite anecdote, cette autrice est à l'origine du test de Bechdel que vous devez connaître, qui est donc le test de critères pour savoir si un film présente les femmes de manière, disons, égalitaire vis-à-vis des personnages masculins. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas Alison Bechdel, en fait, si vous la connaissiez, parce que vous avez certainement entendu parler de ce test.
Connaissez-vous les Radium Girls, ces ouvrières américaines travaillant dans une usine de cadrans lumineux pendant les années 20 ? Qui ont été presque quotidiennement pendant de nombreuses années exposées à du radium contenu dans la peinture utilisée pour marquer ces cadrans. La méthode est sournoise et pourtant bien toxique, lip, dip, paint, lèche, trempe, peint, consistant donc à affiner le pinceau avec leurs lèvres, le tremper dans la solution, peindre le cadran et répéter l'opération durant toute la journée, s'intoxiquant de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. C'est de ce fait divers bien réel que s'est inspirée Cyrielle Evrard, dite Cy, une dessinatrice parisienne, pour créer Radium Girls, une bande dessinée publiée chez Glénat l'été dernier. Alors au tableau, le quotidien des travailleuses, leurs sorties, leurs copineries, puis bientôt les premiers symptômes, d'abord légers et anodins, marrants presque. Par exemple, elles brillent dans la nuit, leurs mains et leurs visages sont phosphorescents, voilà qui est cocasse. Mais rapidement, tout devient plus inquiétant, répété. Bientôt, certaines commencent à souffrir d'anémie, de fractures osseuses, de nécrose de la mâchoire, de tumeurs cancéreuses. Alors certaines en meurent, la tragédie a commencé et c'est une hécatombe. Elles vont être nombreuses à ne jamais s'en sortir. Le mal est incurable, les ouvrières ont été sacrifiées sur l'autel du profit, alors même qu'un médecin avait tenté de les prévenir du danger qu'elles encouraient sans jamais être prises au sérieux. Alors ce fait divers assez méconnu est indéniablement révoltant. Il dit beaucoup de ce que le monde moderne a infligé à toute une tranche de la population pour faire triompher le capitalisme et ses dérives. Pour le droit des travailleurs, cette histoire a permis quelques améliorations, mais en ce qui concerne le radium, il est très très intéressant de noter qu'il aura fallu attendre la mort en 1932 d'un très riche industriel, lui aussi intoxiqué au radium, pour que les réglementations changent. Alors ça, on dit non.
Et c'est une belle idée que de s'emparer de cette histoire qui, évidemment, n'a eu de conséquences en premier lieu que sur des travailleuses femmes.
Bien sûr.
Bien sûr. Et elle est longue, la liste de ces emplois terriblement difficiles qui ont eu des conséquences sur la santé des femmes. Ça existe encore aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai pensé en lisant Radium Girls, à cet article qui dénonçait il y a à peu près un an les pressions que subissaient certaines ouvrières agricoles en Inde pour se faire retirer l'utérus afin qu'elles travaillent sans s'arrêter. Voilà, pas besoin parfois d'aller voir si loin pour avoir d'autres exemples aussi scandaleux.
Alors concernant l'ouvrage, personnellement, j'ai trouvé les dessins superbes. Tout est fait dans un dégradé de violet, de rose, de vert. En tout, il y a 8 teintes différentes, plus une 9e qui est la teinte du radium. Un vert presque phosphorescent, très intense. Alors, c'est très beau. Qui plus est, le livre est un très bel objet. Mais après, moi, j'ai malheureusement trouvé que globalement, l'histoire était racontée de manière assez expéditive. C'est presque bâclé, en fait, dans le scénario. Et surtout assez dépourvu d'émotions. Alors c'est dommage parce qu'il y avait une base extrêmement féconde et puis voilà, à mes yeux, ça passe un peu à côté.
Ouais, je suis assez d'accord. On est un peu frustrés. J'ai trouvé que c'était dommage que tout ce très beau travail de dessin, de scénario, ne serve pas une version plus extensive en fait, de l'histoire, à la fois parce qu'on a très envie en fait, de se plonger un peu plus dans la vie des personnages, d'autant que moi, personnellement, c'est une période que j'adore. Donc,
c'est passionnant.
J'adore, ouais.
Donc, c'est passionnant.
Et à la fois aussi prolonger ce plaisir qu'on a à admirer ses dessins et ses couleurs si belles.
Depuis que j'ai découvert Myrion Malle, une autrice et dessinatrice française vivant à Montréal, je la vois partout.
C'est vrai.
Je la vois en collaboration avec Iris Bray, dans le nouveau livre qu'elle publie ensemble intitulé « Sous nos yeux, petit manifeste pour une révolution du regard », un livre qui décrypte la représentation des femmes dans les films, les séries, les jeux vidéo ou le porno. Je la vois en illustratrice d'un livre qu'une amie a offert à ma fille, « Roule Ginette » d'Anne Dory, version féministe du traditionnel « Roule Galette » que tous les gosses des années 80 ont probablement.
Génial, j'adore « Roule Galette
». Roule Ginette, il est super. «
Roule Ginette », tu me le prêteras.
Non, mais oui, c'est super, parce qu'en fait, apparemment, moi, je ne me rappelais pas, mais le « Roule Galette », il est affreusement misogyne.
Ah
alors
bon
que là, mais oui, apparemment. Et le « Roule Ginette », en fait, la vieille, elle dit au vieux d'aller se faire foutre et elle fait sa vie ailleurs. C'est génial.
Ah bon, il faudrait que je ressorte « Roule Galette » déjà.
C'est génial. Enfin bon, donc voilà. Mais si je la vois partout, c'est sans doute aussi parce que en fait, la lecture de « C'est comme ça que je disparais » Son dernier projet personnel et le premier livre de fiction, publié l'année dernière chez La Ville Brûle, a été pour moi une lecture marquante. De prime abord, franchement, j'y allais un peu en me disant que, ouais, bah, bof, ça ne me tentait pas vraiment, ni le sujet, ni les traits. Tout le monde en parlait, mais je sais pas, j'y allais pas. Et puis j'ai capitulé. Certaines personnes que j'estime beaucoup avaient vraiment l'air de dire que ce livre, c'était vraiment quelque chose, alors je me suis lancée. Je suis repartie avec un dimanche en sortant d'une librairie. Et là, j'ai été saisie par la justesse avec laquelle Myriam Malle s'est emparée d'un sujet aussi grave et finalement assez peu traité que la dépression. Alors, l'histoire est celle d'une jeune femme, Clara, qui n'arrive plus à avancer. Elle se sent débordée, dépassée, n'a plus goût à rien, se sent seule même quand elle est avec ses amis, des amis qu'elle n'arrive plus non plus à soutenir quand elle-même traverse des passages difficiles. Bref, elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus à cacher et à surmonter un traumatisme, une violence qu'elle a subie. Elle a atteint un stade où elle ne ressent même plus de tristesse, elle se sent juste affreusement vide. Alors dans les traits noirs de Myriam Malle, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de doutes, beaucoup d'évocations de la mort, de la disparition. Clara voudrait s'effacer, tout bonnement disparaître. Pour aborder toutes ces problématiques, Myriam Malle ne va pas passer par quatre chemins, tout est affronté de front, mais sans vulgarité. L'autrice distille de la bienveillance tout au long du récit, c'est assez pudique, jamais racoleur. Le texte est très contemporain dans son approche du rapport aux autres, assez représentatif d'une nouvelle génération très attachée à la vérité des sentiments, à cette manière notamment de se sentir safe dans ses relations, ce genre de choses. Dans ce livre, il y a un accent mis sur l'importance de l'écoute, sur l'importance de l'amitié, tout en rendant visibles des moments finalement assez invisibilisés, d'ordinaire où le personnage perd pied, ne s'en sort plus, et qu'une simple tape dans le dos ne suffira pas à sauver. C'est très profond, c'est très juste dans la manière qu'il a de représenter toutes ces épreuves, et puis d'un côté, la dureté de l'entourage, parfois sans forcément que ce soit intentionnel, mais simplement qu'il ne sait pas trouver les mots justes et les gestes appropriés, et de l'autre, la difficulté pour une personne en souffrance de se sentir incomprise. C'est important, je crois, en fait, de montrer tout ça, de montrer qu'il y a, il y a quelque chose aussi en dehors de la tristesse et de la haine, qui est le vide. Et atteindre ce vide-là, c'est presque être déjà allé trop loin. Et alors une question se pose, est-ce que Clara va savoir revenir ?
Alors là, alerte, œuvre d'art monumentale. J'annonce.
Ouais. Les tambours.
Paru en février 2017, Moi ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, publié en France chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, et sacré Fauve d'or à Angoulême en 2019. Et il faut savoir qu'on ressort de ce bouquin complètement soufflé, et c'est quand même un pavé de 800 pages que l'autrice a mis 6 ans à écrire. On est littéralement en fait terrassé par ses dessins aussi forts, cette histoire incroyablement bien menée, si inventive et si touchante. Et l'histoire justement, c'est celle de Karen, qui est une enfant qui grandit dans les années 60 à Chicago, dans un quartier où la violence est assez omniprésente. Elle est un peu à part, un peu dans la lune comme peuvent parfois l'être certains enfants. Elle s'imagine être un monstre, un loup-garou. Car en fait, c'est parfois plus facile d'être un monstre que d'être une fille, et une fille attirée par les filles qui puisaient. Quand sa voisine Anka est assassinée, elle décide de mener l'enquête. La thèse du suicide est avancée, mais elle, qui connaissait bien Anka, n'y croit pas. Son enquête va la mener dans le passé d'Anka, dans l'Allemagne nazie, et découvrir des pans de sa propre histoire familiale. Les monstres dans ce livre, à part dans le titre, ils sont aussi omniprésents. Ils ne sont pas tous mauvais, d'ailleurs. Le tout est de savoir les reconnaître. Ce sont tour à tour des ogres, des freaks, comme on les appelle, ou alors des monstres de gentillesse. Émile Ferris a dépeint l'âme humaine dans tous ses travers et dans toute sa beauté. Les dessins sont réalisés au stylo bille, et c'est assez génial de se dire qu'avec cet objet du quotidien, quelqu'un arrive à créer quelque chose d'aussi magistral. En fait, ça se présente sous la forme d'un journal intime, un peu comme un carnet de croquis réalisé au jour le jour, dessiné et raconté par la narratrice sur un carnet d'écolier avec les lignes et les marges. Où chaque coin de page est utilisé. En effet, en fait, aucun espace n'est vierge, les dessins recouvrent tout, parfois en noir et blanc, parfois en couleur. Ce qui semble être griffonné à la hâte est en fait une illustration d'une précision incroyable, et c'est justement cet effet-là qui en met plein les yeux. C'est tout un univers qui est déployé presque en trois dimensions, tellement on est happé dans les traits, les détails, la couleur.
En fait, moi, je trouve que presque on imaginerait, tu sais, en cours, tu sais, griffonner comme ça, tout le temps.
C'est exactement ça.
Ne jamais écouter et faire tout le temps ça.
Moi, ça m'a rappelé ce que je pouvais faire en classe ou ce que d'autres potes pouvaient faire en classe, y compris même en art plastique, où on avait un cahier d'expression totale où on griffonnait. Et j'ai retrouvé certains de ces cahiers il n'y a pas très longtemps et ça m'a fait penser à ça. J'imagine que du coup, derrière ça, il y a un petit côté un peu presque cathartique, en fait, de retrouver ce genre de choses. parce que c'est très énervé, quoi. C'est griffonné.
C'est appuyé
parfois,
fort.
Ouais, c'est bien, voilà. Il y a de tout, quoi. Il y a tout ce à quoi on pense à l'instant T. Enfin, c'est génial. Et justement, à la faveur de tout ça, on s'y égare, on s'y plonge, on en ressort presque sonné. Et on a envie de presque de le relire aussitôt pour être sûr de ne pas en avoir perdu une miette, tellement il y a de détails. Et pour le coup, là, on est totalement dans le ressenti, je trouve. Il y a une énergie qui se dégage des planches, des mots. Et comme le dit l'autrice, elle-même, on doit décoder. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose, mais tout n'est pas encore à portée de notre compréhension. Il faut creuser pour déchiffrer l'émotion qu'elle nous donne et ce qu'elle veut nous dire. Et c'est assez fort, encore une fois, de provoquer tout ça avec un trait de stylo bille. Et d'ailleurs aussi, l'histoire de l'autrice est aussi singulière que celle qu'elle nous offre avec ce livre. Elle est née en 1962, dans un quartier difficile de Chicago. Elle est mère célibataire et enchaîne les petits boulots quand, après s'être fait piquer par un moustique, elle développe une maladie très grave qui la laisse paralysée, improbable. Et donc là, elle n'arrive même plus à tenir un stylo. Et en fait, elle dit elle-même que c'est cette piqûre qui l'a transformée en monstre.
C'est incroyable.
Incroyable. Et c'est aussi pour elle un choc révélateur, c'est-à-dire de voir un peu, de visualiser la fin de sa vie telle qu'elle était, quoi. Mais à force de travail, elle se rétablit. Elle raconte que c'est sa fille qui lui scotche même un stylo dans les mains pour qu'elle puisse continuer à dessiner. Et sur cette lancée et ce courage-là, elle s'inscrit au Chicago Art Institute et commence la rédaction de ce roman graphique. Et du coup, il y a beaucoup de son histoire dans Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Alors apparemment, un projet d'adaptation cinématographique est en cours. Ce qui n'est pas surprenant, tant les ponts entre bande dessinée et cinéma sont communs. Mais nous, on préfère se concentrer sur l'objet original. Et le tome 2 doit paraître prochainement, donc autant vous dire qu'on a hâte.
Non seulement les femmes ont conquis le monde de la bande dessinée, mais en plus, on remarque que ces dernières années, c'est aussi un terrain d'expression très prisé et hyper efficace pour la prise de parole féministe. On pense bien sûr aux culottés de Pénélope Bagieux, qui remporte encore aujourd'hui, des années après sa parution, un succès international. Mais aussi aux œuvres de Liv Strömquist, qui questionnent toujours des problématiques hyper importantes de la pensée féministe. En somme, on peut dire que toutes, à leur manière, revendiquent le pouvoir de mettre en scène des personnages féminins importants, protéiformes, denses ou juste drôles. Et c'est bien ça qui nous plaît.
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde.
Merci beaucoup.
Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage, et à Théophile Denis pour la musique. Et vous pouvez toujours, comme d'habitude, nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Bye.
Salut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.